Quand j'étais petit, j'avais excessivement peur, je pouvais pas en regarder, même les jaquettes de VHS, ça me faisait bader. Et puis c'est vers 16 ans, j'ai regardé Massacre à la tronçonneuse, je suis rentré directement dans le vif du sujet, on va dire. Et là, il y a eu un déclic.
Si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement?
Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
Simply the best, down.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce meilleur podcast, le podcast où on parle des meilleures choses avec les meilleurs invités. Je m'appelle Cyrus.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du meilleur podcast. Aujourd'hui, jour où sort cet épisode, c'est la fête de Halloween.
Halloween.
Donc un épisode placé sous le signe du frisson. Aujourd'hui, on va débattre ensemble du meilleur monstre et pour en parler, on reçoit...
Aujourd'hui...
Ah, ok, non, mais vas-y.
J'ai suivi ton.
C'est vrai.
J'ai suivi ton.
Hey, je te laisse la parole.
Il m'a envoyé un guidage.
C'est pour toi.
Il y a écrit intro tome. Et ensuite, pour en parler avec nous, on reçoit aujourd'hui Kalindi, journaliste ciné chez Mademoiselle.
Oui, bonjour, c'est moi. Bonjour.
Et ensuite, il y a écrit tome présente. Halt.
Exactement. Putain, le mec cache la magie du truc, quoi. Vraiment, on monte les ficelles, ça y est, quoi. Et on reçoit également Alt 236. Alt, qui est un vidéaste qui fait des vidéos sur le thème de l'épouvante, de l'horreur. Je sais pas exactement comment bien écrire ta chaîne parce que tu traites de beaucoup de sujets liés à tout ça. Alt, on est hyper content de te recevoir.
Quelle idée aussi, on est hyper content, je l'ai pas dit.
Vraiment, j'ai eu une présentation mille fois moins bien que Alt. Vraiment de A à Z. Personne ne sait ce que j'écris, mais... de quoi je parle, pourquoi je suis là,
c'est clair.
Personne ne sait.
Ça va pas du tout.
Mais c'est parce que Tom m'a mis les deux lignes, j'ai lu les deux lignes.
Ouais, ouais. Non, mais pour l'instant, c'est le pire podcast. Vraiment. Le pire.
Alors, reprenons les choses bien. Alors, attends. Premier, Kalindi, raconte-nous un peu ce que tu fais sur le site de Mademoiselle. Sachant que l'instant promo est plutôt à la fin de l'émission. Mais bon, on va régler tout ça maintenant, j'ai bien compris.
Non, mais c'est l'instant présentation.
On sera sur des bonnes bases après. Kalindi, qu'est-ce que tu fais sur Mademoiselle?
Alors, je suis Kalindi et je suis chef de rubrique cinéma et séries sur Mademoiselle. Je fais aussi un podcast qui s'appelle Laisse-moi kiffer, on rigole beaucoup. Et je fais quoi? C'est à peu près tout. Je lance bientôt un podcast à moi. Qui va parler de la double culture, voilà.
Ah, stylé.
Ouais, ça va être intéressant.
Tous ces podcasts disponibles sur Apple Podcasts?
Tout à fait.
SoundCloud.
iTunes, SoundCloud. Et puis voilà, c'est déjà pas mal.
Et va s'appeler comment, celui sur la double
Pour
culture?
Pour l'instant, on n'a pas d'idée, donc merci de ne pas l'amener.
Ok,
voilà.
Ça marche.
Et donc, on reçoit également Alt236.
Oui,
salut tout le monde, salut.
On est très content que tu sois là, de la même niveau de happiness que Kalindi, pas un plus que l'autre.
On est également content.
Ouais. Pareil. Donc Alt, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais sur YouTube?
Alors moi je m'intéresse aux images dans leur grande largeur et si possible les images un peu étranges.
Ah donc vraiment des posters en fait?
Exactement, je m'intéresse voilà, aux impressions offset et tout, c'est cool. Et donc je m'intéresse aux films, aux symboliques qu'il y a derrière les images, voilà, dans l'art et aussi dans le ciné, voilà, tous les supports possibles.
Mais voilà. Surtout les posters.
Mais surtout les posters, évidemment.
Avec un petit attrait pour tout ce qui est un peu étrange et un peu flippant.
Exactement.
Parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, Tom.
C'est de tout ce qui est monstre.
Tout ce qui est monstre. Mais d'ailleurs, est-ce que tu n'aurais pas des choses à nous raconter, Tom? Est-ce que ce ne serait pas l'heure de Lady Tom?
J'ai une question.
Oui.
Est-ce que du coup, vous avez choisi de faire un édito pour cette vanne?
Non, c'est venu après.
D'accord. Très bien. Tu peux y aller.
Mais on aurait pu. Ça aurait pu
très bien
se passer comme ça.
Ça aurait pu se passer comme ça.
Dans l'activité, aller voir un film d'horreur au cinéma, ce qui me terrorise le plus, c'est la partie au cinéma. Parce que ouais, aller au cinéma, je trouve ça hyper stressant en vrai. Rien que choisir le film, c'est une épreuve. Quand t'es avec tes potes, c'est pire que Mickey Enigme le truc. Genre Jérémy veut voir un film d'action, mais Manon veut que de la VO, la 3D ça fait vomir Gauthier, et puis Laura a déjà vu ce film hyper cool en avant-première. Et c'est comme ça que tu vas voir le dernier Dwayne Johnson. Et une fois que t'es rentré dans le ciné, tu fais face à la plus grande incohérence de la planète, j'ai nommé le popcorn. Non mais t'es au cinéma, tu vois, c'est un endroit où tout doit être calme et silencieux et on te vend du popcorn, le truc le plus brillant du monde. On peut pas faire plus incompatible. C'est comme si on tuait des capotes pour aller à la messe. Et puis, il y a que au cinéma qu'on te vend du popcorn. Genre cet aliment, il a dû être tellement relou à l'école de la nourriture qu'on l'a puni à vie. Ah ouais, le popcorn? Tu continues à faire le malin en cours? Très bien, bah tu seras vendu qu'à un seul endroit dans toute la planète et les gens pourront même pas kiffer de manger parce qu'ils auront pas le droit de faire de bruit. Une fois qu'on a passé ces étapes traumatisantes, il reste la dernière, le boss de fin, trouver une place dans la salle. Et là, c'est comme dans Titanic, quand le bateau coule et que tout le monde se rue sur les canaux de sauvetage, les gens courent partout, ils chopent les meilleures places, et toi t'es là au milieu, tu galères et tu perds grave de temps. On va tout devant? Non, on aura trop mal à la tête. Ok, alors on va derrière? Non mais c'est mort, on va rien voir. Ok, là au milieu, il y a de la place. Non, mais on pourra pas se lever pour aller pisser, c'est chiant. Et pendant ce temps, tous les gens se jettent sur les meilleures places, comme sur les meilleures fringues le premier jour des soldes. Et comme au premier jour des soldes, si t'es pas réactif, tu te retrouves avec les places disiguales, c'est-à-dire collées au mur avec un angle de bâtard qui t'empêche de lire un sous-titre sur deux. Et encore, je vous passe mon angoisse ultime qui est de garder les places pour tes potes qui sont à la bourre. Sérieux, arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Déjà, on doit enlever la moitié de ses fringues pour les mettre sur les sièges d'à côté. C'est hyper chiant. Et moi, le regard des gens à qui tu réponds « Non, désolé, c'est pris, j'attends quelqu'un », il m'enlève un point de vie à chaque fois.
Et puis l'été, c'est une galère. Quand tu fais ça l'été, ouais, t'as c'est... qu'un t-shirt, bon, tu te retrouves à poil. T'es.
Moi, je mets des t-shirts en plus parce que je sais que mes potes sont en retard. Je veux au cinéma avec tous mes habits.
Tu sais, des fois, tu poses une casquette. Tu dis « Non, mais il y a vraiment… » Regardez.
Je suis désolé, je garde.
Il y a ma casquette qui est là.
Stratégie n'a aucun sens. Enfin voilà, ça c'est peut-être que mon avis en fait, et j'aimerais connaître le vote, chers invités. Donc je me tourne vers toi, Kalindi. Pourquoi est-ce que tu aimes voir des films d'horreur ?
Pourquoi j'aime voir des films d'horreur ? Déjà, je pense que l'horreur, c'est ce qui m'a amené à mon amour pour le cinéma. C'est que ce que j'attends d'un film d'horreur, en fait, c'est qu'il me file le frisson. Et le truc, c'est que je vais au cinéma 3 à 6, 7 fois par semaine. Et les films d'amour, les films de société, je finis par en connaître les codes et ça finit par m'intéresser moins et surtout me surprendre moins. Et ce que j'attends d'un film d'horreur, c'est qu'il me sorte de ma zone de confort, qu'il me sorte de ma position de spectatrice passive et qu'il me fasse ressentir un vrai truc. Tu vois, j'attends le frisson, j'attends ça d'un film d'horreur. C'est pour ça que je vais voir des films d'horreur, mais pas que. Le film d'horreur, j'attends qu'il me dise un truc de la société, j'attends plein de choses. Et, mais surtout, ce frisson, un truc qui va me parcourir les chines, tu vois, quelque chose qui va me glacer les sang et me faire réfléchir. Et je pense, en fait, j'ai toujours aimé ça. Ça doit faire 15-20 ans que j'en bouffe matin, midi et soir. Vraiment, matin, midi et soir. Il n'y a rien qui sort sans que je ne le voie. Et je crois que c'est ma passion et ce qui m'a amené vraiment à faire du cinéma, mon métier, de manière très indirecte, puisque je ne fais qu'en parler et faire des recommandations aux gens. Mais c'est déjà pas mal.
En même temps, tu regardes 6 à 7 fois. Enfin, tu vas 6 à 7 fois au ciné par semaine.
Non, j'ai
énorme.
Dit de 3 à 7 fois.
Donc, énorme.
C'est énorme, mais c'est mon travail. C'est que voilà, ouais. Donc si je veux parler des films qui sortent, je suis un peu obligée de les avoir vus. Donc je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au cinéma. Et malheureusement, je vois trop peu de films d'horreur parmi toutes ces projections.
Par contre, tout à l'heure, tu as dit parcourir les Chines. Alors ça, il me semble que c'est vraiment juste la Grande Muraille. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres choses qui.
Et donc toi, Alt.
Non mais c'était
merci
bien.
Pour cet enchaînement.
Non,
oui, c'était bien, mais bien sûr que c'était bien, mais il le sait. On peut pas, oui, on peut pas non plus l'encourager. On peut ne pas l'accabler. Mais si on commence à l'encourager sur ça, c'est terminé.
Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il est hilar.
Oui.
Il est hilar.
Non mais faut être son meilleur public. Sinon, ouais, tu vois, c'est chaud quoi.
Il suffit. Alt, pourquoi tu kiffes mater des films d'horreur ?
Pourquoi j'aime les films d'horreur ? On va dire que déjà de notable, quand j'étais petit, j'avais excessivement peur, je pouvais pas en regarder. Même les jaquettes de VHS, ça me faisait bader. Et puis c'est vers 16 ans, j'ai regardé Massacre à la tronçonneuse, je suis rentré directement dans le vif du sujet, on va dire. Et là, il y a eu un déclic. C'est des images un peu à part, le film d'horreur. Et t'as dit quelque chose qui m'intéressait, c'était surprendre. Et je pense que comme c'est fantastique, le film d'horreur, la plupart du temps, c'est des choses qui peuvent pas se produire. Bah, c'est justement là où tu peux voir des choses que t'as pas l'habitude de voir des choses invues. Et avec le temps, maintenant j'ai une vision peut-être plus intello du film d'horreur, parce que c'est aussi un peu mon métier dans une autre façon, je les analyse et voilà. Et du coup maintenant j'essaie de chercher ces séquences, parfois il y en a 2-3 dans un film où il se passe un truc qui dépasse juste un jumpscare ou je sais pas quoi, c'est vraiment une image où ça touche une partie de ton inconscient hyper flippante et tu sais pas pourquoi mais ça t'a terrorisé. Et ça du coup j'essaie de creuser pourquoi. Il y a que le film d'horreur qui me fait ça.
Est-ce que pour les gens qui sont pas amateurs du genre, tu peux juste expliquer ce que c'est un jumpscare ? Excusez-moi, alors, je vais tousser un coup parce que là c'est pas possible.
Vas-y. Eh ben c'est ça un jumpscare.
Pardon. Oui, donc je voulais savoir. Non,
alors, pour l'anecdote, les gens voient pas, mais il y a un chat qui vient de sortir de ta gorge. Tom,
Ico, attends, sur le mur. Voilà. Hop, il est parti.
Et un jumpscare, en gros, c'est une, on va dire, c'est un procédé filmique qui consiste à, lors d'une séquence qui est avec une certaine tension ou au contraire totalement calme et inattendu, il se passe quelque chose de soudain, quelque chose qui jump dans l'image ou un cut ou un cri, quelque chose qui va vraiment venir te cueillir dans le calme relatif dans lequel tu étais. Quoi.
Et te faire sauter du siège.
Voilà, et te faire jump, sauter, scare, tu sautes effrayé. Voilà.
Un procédé, à mon sens, qui est trop utilisé. Et moi, c'est vraiment ce qui me gonfle quand je vais au cinéma. Je me dis merde, mais en fait, ça n'est plus que ça. Et en fait, on cherche plus à me surprendre d'une autre manière. à part à me faire bondir des trucs à la gueule où finalement ça ne marche plus puisque tu vois je suis au fond de mon boucaquier de jumpscare là et finalement je me fais chier.
C'est quelle belle expression. C'est un peu, on peut mettre ça en parallèle avec ces vidéos à un moment qui il y a 10 ans sur internet étaient, les gens trouvaient ça hyper marrant, ça les envoyait où il y avait un truc très calme et tout d'un coup un visage horrible qui apparaissait
c'est
et qui
les
criait.
Screamers.
Oui.
Ok, donc on est un peu sur le même ressort.
C'est
de...
exactement le même concept.
Ah ouais, j'avoue j'ai toujours confondu les deux, je pensais que c'était, enfin je viens de tilter que c'est deux mots différents tu vois.
Bah ouais,
genre
bah,
ça rentre
moi
dans
aussi,
ma même case.
Effet Mandela.
Non, mais c'est ouf.
Putain, ouais.
Cyrus, tu consommes beaucoup de films d'horreur ou pas du
pas
tout?
Pas du tout. En fait, moi, même, je déteste ça. Je regarde jamais. Parce qu'en fait, si jamais j'en regarde, genre vraiment, je les oublie pas. Je passe de très mauvaises semaines sur les semaines qui suivent.
Ah, t'es un très bon client, en fait. C'est
ouais,
ça le truc.
Ouais, je suis un trop bon client. Ouais. Et donc, du coup, je suis pas bien, en fait. Tu vois, je suis là, genre, ouais, imagine, il y a des enfants dans cette forêt et qu'ils vont m'attraper pendant
mais
la nuit.
Mais est-ce que tu vas souvent en forêt?
Bah
non, du
cool,
coup.
Non, mais les balades en forêt, c'est cool, tu vois. Franchement.
Mais
bah moi, j'irais pas en forêt, tu vois, par exemple.
Pareil.
Parce que je suis à fond dans l'horreur et tout, mais du coup, j'ai peur, en fait.
Ah oui, ouais, bah
mais
voilà. Alors que moi, je kiffe
ça.
Trop la forêt pour vouloir en avoir peur, tu vois.
Cyrus est immaculé de toutes les situations qui peuvent nous faire flipper dans la vraie vie.
Non, mais.
Vraiment, ah, cette église à 2h du matin est vraiment d'une très belle architecture. Ce cimetière est très bien entretenu.
Et mais d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que j'ai eu un commentaire il y a 2-3 jours qui m'a fait bien marré, c'était un épisode sur les ténèbres, donc j'interroge l'obscurité, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et il y a quelqu'un qui me répond en commentaire, l'autre nuit je suis parti dans la forêt, en courant, j'étais seul, il faisait nuit et tout, et j'ai mis de la musique, donc j'étais encore plus coupé du monde extérieur, et ça m'a fait des trucs de ouf, genre
comment
on a tout, mais en vrai, il a raison,
ça doit être dingue,
ouais, c'est comme faire un câlin à un arbre, tu vois, tout le monde se fout de ta gueule, mais en vrai, c'est des trucs puissants, tu vois, genre, et là, je pense que courir la nuit dans la
alors,
forêt...
Alors, par contre, le câlin à un arbre, l'analogie...
Et ben, c'est parce que vous l'avez jamais fait.
Je pense que tu t'es senti hyper
si,
à l'aise avec
vrai,
nous, que t'as voulu dire des trucs, et
mais j'assume le câlin à un arbre,
en vrai, j'ai fait un câlin à un arbre, et je t'avoue que ça m'a pas donné autant de sensations que si je courais dans la forêt la nuit avec de la musique.
J'ai pas dit qu'il y avait pas une gradation, je te dis juste c'est
d'accord,
ce genre de truc,
okay.
Tu vois, qui a l'air de rien,
okay.
Comme ça, mais en vrai, okay. Quand tu y penses, va faire un câlin, un vrai câlin à un arbre, un gros arbre.
Je dis c'est bien, vous n'arrivez pas à faire le tour.
Alors, déjà fait.
Mais en fait,
disclaimer, évitez les ronces.
Franchement, c'est cool. Ah oui, non, c'est un grand.
Ce que tu disais, Cyrus, je pense que c'est hyper important parce que ce que tu ressens, c'est l'adrénaline, en fait. Mais c'est ça qui motive les passionnés d'horreur. En fait,
j'ai bien compris. Voilà, j'ai bien compris que dans votre discours à tous les deux,
ouais.
En fait, ce qui vous fait kiffer, c'est ce que moi j'évite.
Exactement.
Et donc dans ce cas-là, c'est bien, on est à raccord.
Mais je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que les débutants entre guillemets en horreur,
sympa,
je pense
je vais y aller du coup. Je
non,
vais y aller. Elle,
ce que je veux dire, c'est que
aucun.
C'est que en fait, si forcément tu ne regardes jamais, t'es pas habitué à ce sentiment, et plus tu maîtrises, enfin plus tu regardes de l'horreur, et plus tu t'affranchis de cette peur-là, et plus tu vas aller voir au-delà de l'horreur,
tu
et au final, tu as exactement.
Ouais,
et du coup, tu finis par moins flipper dans la réflexion.
Je peux comprendre, et en même temps, tu vois, genre, je m'imagine seul chez moi, à déjà flipper au moindre bruit. je me dis, à quoi bon donner de l'eau au moulin, tu vois, du grain à moudre.
Aussi,
les deux
peuvent.
Je pense que c'est la raison principale pour laquelle beaucoup de gens aiment pas le film d'horreur, c'est que ils ont pas cette impossibilité à dissocier l'œuvre entre guillemets du sentiment. Tu vois, tu rentres vraiment dedans et du coup, quand t'es tout seul chez toi, t'es gentil, mais je suis pas au ciné avec le popcorn, je flippe quoi. Et ça dépend d'où t'habites. Si t'habites au fin fond de la campagne, c'est peut-être plus flippant que au milieu d'une cité hyper chaleureuse avec plein de gens. Tu vois, il y a aussi le contexte de où tu vis, je pense.
Bien sûr, bien sûr. Vous avez vu Incassable, ce film?
Ouais.
Oui, tout à fait.
Avec Bruce Willis et.
Voilà, Bruce Willis.
Mais c'est pas un film d'horreur.
Ouais.
c'est un film horrible.
C'est pas
voilà.
Samuel L. Jackson.
C'est ton top en
non, Tom, laisse-moi finir. Laisse-moi commencer et finir mon propos. Donc, en gros, très rapidement, le pitch, c'est un mec qui. Donc, c'est Bruce Willis qui est hyper. Qui est incassable, en fait, d'une certaine manière. Genre, il y a eu un accident et, genre, c'est l'un des seuls de tout le train qui survit. Et du coup, on se pose la question de voilà, est-ce que c'est une forme de pouvoir? C'est une sorte d'héros, mais dans la vraie vie, etc. Et donc, je spoil pas le film, mais donc, il y a une scène de fin avec Samuel L. Jackson, etc., où, genre, il se passe quelque chose. Et ben tu vois, genre c'est pas un film d'horreur, mais ce truc là, ça m'a genre trauma.
La tension, tu veux dire, la simple tension, le suspense.
Ouais, mais c'est plus
ça
qu'une tension parce que j'étais là, genre waouh. Et genre ça m'a pris.
Une sorte de vertige quoi.
Ouais, et ça allait chercher un truc au fond de mon corps et un peu localisé au niveau de mon cœur, tu vois, un peu au fond de mon cœur. Et genre ça m'a touché à un truc et genre c'est gravé là, tu vois.
Mais tu peux être trauma par des scénettes qui sont pas forcément ancrées dans des films d'horreur. Moi, je sais qu'étant petit, j'étais tombé sur des morceaux de Jason et les Argonautes,
ouais.
Où il y a une scène avec des espèces de squelettes animés, et c'était hyper bien fait pour l'époque. C'est pas un film d'horreur, c'est un film d'aventure, mais ça m'a traumatisé aussi, quoi.
Ouais.
Enfin, ouais
je sais pas, c'est pas...
Oui, non, mais effectivement, en fait, il y a film d'horreur et film d'horreur pour moi, parce que c'est très bateau ce que je viens de dire. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, il y a American Nightmare, par exemple, qui est considéré comme un...
Ouais, c'est comme un film noir, on va dire.
Voilà,
ouais.
Alors que ça me fait triper. D'accord. Franchement, ça me fait marrer. Mais... Et alors que d'un côté, il y a Les Autres, par exemple, où ça, je ne veux pas le voir. Tu vois, c'est hors de question. Tout ce qui est esprit, machin et tout.
D'accord.
Voilà. Même Exorcisme, un peu à la limite, un peu entre, j'ai envie de dire, un peu entre les deux. Mais tu vois, un truc genre Massacre à la tronçonneuse, ou du... Enfin, ça va me faire plus... ça me fait triper. Tu vois ce que je veux dire ?
D'accord.
Pour moi, il y a du bloody... Il y a du bloody horror, un peu.
Ouais.
Et il y a du horror spirituel, psychologique, tu vois. Et
psychologique.
Psychologique.
Mais tu dis un truc intéressant, c'est que l'horreur, c'est hyper dur à définir, en fait. Déjà, des films d'horreur, il y en a 40 types différents. Il y a des comédies hyper gore ou des trucs ultra flippants sans aucune scène dégueulasse et où tu flippes 10 fois plus. C'est très compliqué à définir. Et j'irais même plus loin en disant que, par exemple, la scène qui m'a fait arrêter un film, moi, tu vois, c'est Scarface, par exemple. Il y a une scène avec une tronçonneuse dans une scène.
Ah oui, oui. Ouais.
Genre, alors que le film n'est pas du tout horrible, il n'y a aucun corps du film d'horreur.
Cette scène, elle est ouf.
Eh ben moi, j'ai arrêté. Ça a brisé un truc dans mon cœur aussi. Je me suis dit, putain, c'est pas possible, c'est trop hardcore, c'est trop horrible. Et en fait, ça m'a fait arrêter le film. Alors que j'ai vu dans Massacre à la tronçonneuse des trucs bien plus dégueulasses qui m'ont pas fait ça, en fait.
Mais c'est à cause du contexte. Parce que Scarface, c'était dans un contexte qui n'est pas un film d'horreur. Donc, tu n'étais pas prêt à ça.
Déjà.
Alors que Massacre à la tronçonneuse, c'est le deal, quoi.
Complètement.
Ça s'appelle Massacre à la tronçonneuse. Tu t'attends pas à autre chose.
Il y a ça, mais il y a aussi 1000. En fait, il y a 1000. Type de film d'horreur et il y a 1000 spectateurs en fait, mais beaucoup plus, c'est-à-dire que chacun va
7 milliards potentiellement sur un truc de spectateurs.
Bah, ça dépend parce qu'en dessous de 18 ans, les films sont pas autorisés.
Ouais, c'est vrai.
En maison de retraite, je suis pas sûr qu'ils projettent tous les
voilà,
films.
Donc on peut réduire déjà un peu le
3 milliards à peu près.
Voilà. Voilà. Mais quand même,
pas mal.
Ouais.
Je rebondis sur ce que tu dis, Alt, le fait que effectivement l'horreur c'est quand même un genre un peu à part qui a des codes peut-être un peu plus difficiles à décrire et à spécifier parce que du coup ça englobe plein de sous-genres différents. Kalindi, est-ce que toi par hasard t'as un genre de cinéma d'horreur que tu préfères davantage qu'un autre et pourquoi ?
Alors je crois que le sous-genre du cinéma d'horreur que je préfère c'est le slasher, en tout cas pas tous les slashers.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour nos auditeurs ?
Un slasher c'est un film dans lequel généralement un psychopathe souvent masqué va s'en prendre à un groupe, souvent des adolescents, à l'arme blanche. Donc on a par exemple...
Non, c'est horrible ça, putain.
Ouais, donc ça a commencé, si je dis pas de conneries, avec Carpenter, qui a instigé le premier slasher avec Halloween, qui est sorti il y a 40 ans, dont aujourd'hui on fait une suite directe, qui est sortie mercredi, donc mercredi 24 octobre. Et ouais, c'est un sous-genre que j'adore, parce que je le trouve hyper cruel, et en fait, les grosses figures horrifiques qui ont été instigées par le slasher sont des mecs absolument géniaux, tu vois, Michael Myers d'Halloween, moi c'est mon idole, il est d'une froideur, il assassine comme il irait chez Carrefour, enfin tu vois, vraiment, c'est un gars que j'adore, et puis quand il a envie de buter quelqu'un, il va à fond, tu vois, c'est une obsession, Laurie Strode, la meuf qui veut absolument assassiner à chaque putain de fois, ben il a un objectif, il veut s'y tenir, et voilà. Mais c'est un sous-genre que j'adore, mais en fait, j'ai du mal à les hiérarchiser, parce que je suis complètement fan de cinéma qui vont mettre en avant une spiritualité. Justement, Les Autres, c'est très très bien, et c'est très très bien parce qu'il y a un très beau twist, ce qui manque à beaucoup beaucoup de produits horrifiques. Mais je pense que je dirais, le slasher est un genre qui me parle énormément, même si mon film d'horreur récent préféré, je crois qu'on va y venir plus tard peut-être, ou je garde ça pour plus tard.
Non, vas-y, est-ce que c'est ton choix du meilleur monstre ?
Pas du tout.
Bah donc vas-y, okay. Je t'en prie.
Mon film d'horreur préféré, c'est un film qui est sorti en 2016, je crois, qui s'appelle The Wailing, The Strangers en français, qui est un film de Na Hong-jin, qui est absolument extraordinaire, qui se passe en Corée du Sud. Et je pitch du coup, rapidement,
bien sûr,
très bien.
Alors, j'ai déjà des frissons, tu vois, c'est ouf.
C'est Corée du
Sud,
tu
vois,
avec le nom avec Corée
imaginaire.
Du Sud et tout, Stranger, vas-y.
Alors en gros, c'est l'histoire, alors comment, ça va être compliqué, je suis très mauvaise en pitch. Ça se passe en Corée, dans une espèce de petite montagne où il y a très très peu d'habitants, voilà, une ville perdue dans la brume un petit peu, voilà, déjà ça fait flipper quoi, et les gens commencent à ressentir une fièvre dévastatrice qui va les transformer en personnes sans cœur et qui vont être amenées à commettre des crimes, et en fait la police va se saisir de ce cas-là et va se dire que les assassinats qui ont été perpétrés peuvent être du fait d'un ermite japonais qui vient à peine de s'installer dans le coin, et en fait c'est un produit sur la xénophobie, c'est hyper beau. Et donc, ça va être la traque de ce japonais qui va lui essayer de s'en sortir. On ne sait pas avant la fin si ce type est vraiment coupable ou si c'est juste la xénophobie terrifiante de ces Coréens. Mais ouais, il y a un truc dans ce film qui m'a, pour le coup, qui m'a fait mais flipper comme aucun autre film m'avait fait flipper avant.
Les Japonais, vraiment, on est d'accord, c'est flippant, c'est, les Japonais,
non,
franchement.
C'est plus les Coréens, disons ouais, les choses comme elles, comme elles le sont, tu vois.
Mais les Coréens sont très forts en cinéma.
Ouais, c'est un truc de fou. Ils sont vraiment très très forts. Et en fait, j'étais chez moi, tu vois, je l'ai même pas vu au cinéma. J'étais chez moi et j'ai été écrasée, mais du début à la fin, je me suis dit putain, ça me fait stresser. Il y a rien, il y a quasiment pas de jump scare. Il y a juste des silhouettes à des moments qui se découpent de maisons et de meufs en blanc d'un coup qui se découpent, qui forment une ombre, c'est magnifique, tu vois, c'est hyper chiadé en plus et tout.
Donc il y a des gens qui meurent et tout dans le film, enfin oui.
Oui, bien sûr.
Il y a des jumpscares ?
Non, bah, elle a dit.
Non, je t'ai dit, tu n'écoutes pas Cyrus.
Non, mais non, parce que j'avais les images en tête et tout, j'imaginais en fait, et j'avoue, je suis parti.
Putain, mais t'es vraiment très vulnérable au.
Et réceptif,
c'est fou.
Mais tant mieux, c'est agréable de te raconter une histoire d'horreur.
Non, mais en fait, parce que j'adore les histoires, j'adore les films, tu vois, genre. Ouais, c'est. Ça, vraiment,
les films, c'est bien.
Non, mais voilà, tu vois, genre, je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, mais. Voilà, les histoires ça me touche, le cinéma ça me touche, je pense beaucoup en images, tu vois, genre voilà. Et donc du coup, effectivement, je chiale très souvent au cinéma par exemple.
D'accord.
Cars 3, t'avais pas mal pleuré, je me rappelle.
Ouais, Cars 3, putain, ouais, quand la jante, quand il perd sa jante.
C'était la boîte à gants qui s'ouvre et tout, c'était vraiment un combo. Ouais, les mecs, ils connaissent vraiment mal le film en plus.
Je suis sûr, il y a un spé qui écoute. Non, mais il n'y a pas de boîte à gants dans Cars 3.
Ils ont la version uncut.
Et non, mais tout ça pour dire que oui, du coup, ouais, ce que tu me dis, je l'imagine et je me dis putain, ça va être tellement fort.
Eh ben c'est très fort. Je peux te dire que moi qui suis de moins en moins sensible en réalité à l'horreur et qui me fait chier très régulièrement et je m'endors devant des films d'horreur le soir au moment de me coucher, ouais. Eh ben je peux te dire que The Wailing, ça m'a fait sortir de ce truc-là. Je me suis dit putain, je suis pas bien,
En fait, je pense qu'on a une sorte de... on a tous un seuil un petit peu... Et donc je vous regarde tous. On a tous un seuil un peu différent de sensibilité devant les films. Et j'ai l'impression que pour aller chercher des émotions que moi je ressens devant un film... Bah, vous deux, donc Kalindi et Alt, vous êtes obligés d'aller plus loin, quoi, et de mater des trucs d'horreur, des trucs qui vont être vraiment vous prendre au cœur de vous-même, quoi. C'est un peu ça. Est-ce que les gens qui aiment les films d'horreur, finalement, c'est des gens qui ont une plus grosse carapace ?
Oh, je pense pas forcément. C'est une bonne question. Par contre, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est le côté tu t'endurcis. Et même, j'ai envie de dire, moi, au début, quand j'ai commencé à consommer du film d'horreur, tu vas vers les grands titres, les trucs qui ont fait du bruit, alors L'Exorciste, etc. Et, tout. Et puis, bah, plus tu connais un peu tes classiques, on va dire, au bout d'un moment, bah, plus tu recherches des trucs un peu plus rares, un peu moins connus ou des trucs plus spécialisés. Parce qu'il y a vraiment de tout en horreur. Hein. T'as des trucs horribles, irregardables, des trucs nuls, des trucs géniaux, méconnus, des trucs contemplatifs. T'as mille sortes d'horreur, comme je disais. Et moi, en fait, avec le temps, j'en suis venu à avoir tu vois, des petits choix. Donc, par exemple, je suis excessivement fan du travail de Clive Barker, qui a fait le film Hellraiser, dont je suis excessivement fan. Et il y a dedans des démons qui s'appellent les Cénobites, qui sont des espèces de... Pour moi, c'est les premiers monstres qui sont aussi fascinants et kiffants que horribles, quoi. C'est des espèces de créatures sadomaso hyper badantes qui viennent d'un nouvel enfer un peu spécial et tout. Mais là où c'est intéressant, c'est que du coup, ils ont un look très particulier, etc. Et que je me suis mis à chercher... tous les monstres qui avaient ce genre de vibe, en fait. Hyper malsain, fascinant, un peu sexuel.
Et tu es tombé sur le horror porn.
Non, mais t'en as plein. T'as The Void qui va un peu là-dedans. T'as des trucs genre, par exemple, Buffy contre les vampires. Tu m'attendais pas là. Bah, y a les pires méchants de la fiction qui s'appellent les Gentlemen, qui sont des mecs totalement terrifiants, qui viennent te prendre ton cœur, qui peuvent pas parler, ils flottent. Enfin, ils sont en costard, ils sont hyper badants. T'as les Strangers dans Dark City qui sont
ça, c'est les mecs qui ont trop lu JQ, tu sais. Ils se transforment en gentlemen.
Et ben, le résultat fait pas envie, tu vois, franchement. Mais du coup, voilà, t'en viens à tes marottes, en gros, parce qu'il y a des trucs que t'identifies avec le temps, contrairement à toi qui, du coup, peut avoir peur un peu de tout, je pense, parce que t'as pas identifié ce qui te faisait vraiment peur. Et même ce qui est marrant, t'as dit que American Nightmare, ça te faisait pas flipper. Il y a plein de gens que ça met en bad. C'est du,
ah ouais,
bah c'est du home invasion, c'est-à-dire le concept, c'est des gens qui rentrent chez toi pour te buter avec des machettes. Ça fait flipper des gens, tu vois.
Ouais, mais c'est tellement grotesque que c'est presque marrant, je trouve.
Pour toi, ouais, mais il y a des gens.
Ah ouais.
Mais je pense que ce qui est intéressant, ce que tu
moi,
dis.
Moi, c'est Panic Room qui va me faire flipper, pardon.
Oh. Ouais, c'est pas pareil. Non, bah, c'est pas traité de la même manière. C'est dans le traitement
voilà,
aussi.
C'est ça. Moi, c'est dans le traitement. Suspense, moi, c'est cette invasion-là qui me fait peur. Pas...
Mais je pense, en fait, effectivement, ce que tu dis, c'est que vous en regardez beaucoup, donc vous allez peut-être être plus exigeant et que vous allez chercher des choses qui correspondent plus à vos envies. Mais au final, c'est pareil dans tous les métiers du monde. Je pense, tu prends un onologue, par exemple.
Bah oui.
Il va forcément avoir bu énormément de vin. Il va aller chercher le petit truc là où toi, le moindre vin, tu vas peut-être le trouver juste bon parce que t'as pas le même truc. Donc au final. Je pense que ça se consomme un peu de la même manière.
T'as une démarche d'esthète, quelque part, t'as envie d'aller chercher les trucs que pas forcément que tout le monde connaît pas, mais les choses qui auraient pu passer hors des radars.
Et pareil avec les neunologues, ils veulent voir des gens qui sont vraiment neuneux.
Exactement.
Ils ont vraiment envie de.
J'ai une question un peu malsaine à te poser, Alt, mais en tout cas, okay. Honneur. C'est quoi le truc le plus bizarre, malsain, sur lequel t'es pu tomber et où soit tu l'as maté par curiosité, ou soit tu dis, ok, là vraiment, ça, je peux pas, ça va vraiment trop loin.
Il y a plusieurs trucs. Alors, dans ce qui est connu, il y a par exemple Serbian Film. Moi, du coup, ça va trop loin. C'est vraiment, il y a des scènes dans ce film où t'as l'impression que le réel, il a voulu vraiment manger ton âme. Tu vois, Pitch, c'est du. Alors, le snuff movie, c'est des films où des gens sont mis à mort devant une caméra et dans l'idée qu'il y a des gens qui pourraient payer pour voir ça. Donc voilà, il y a plein de films qui tournent autour de ce genre. Il y a 8 mm qui est connu avec Nicolas Cage. Voilà, sa femme a disparu et il a retrouvé une cassette avec de la torture. Donc il part en enquête, etc. Donc le snuff, c'est déjà assez hardcore parce que c'est vraiment le spectacle de la souffrance qui est mis en scène, etc. Donc ça, c'est spécial. Il y en a des très bons films de snuff, il y en a des horribles où le but, c'est vraiment un peu malhonnête de faire les trucs les plus dégueulasses possibles. Et j'avoue que je suis pas trop réceptif, je l'ai été plus jeune, tu vois, au truc vraiment dégueulasse, mais aujourd'hui moins. Faut plus chercher du côté des Allemands si vous voulez avoir des trucs vraiment vénères. Il y a des mecs qui s'appellent Jörg Budgereit, par exemple, voilà, qui fait, ou tous les mecs qui font des trucs chez Uncut Movies, c'est des films que t'achètes par correspondance, quoi. Genre, on t'envoie la cassette et tout, et c'est genre
incroyable.
Avec du vomi, des trucs hyper vénères, des gens, tu te demandes s'ils. Enfin, non, pas des trucs où tu te demandes s'ils ont vraiment souffert, mais le but, c'est vraiment de faire le truc le plus underground, crado et tout. Donc, je suis pas client, mais ça existe, quoi. Tu vois, il y a vraiment.
C'est très gratuit, quoi. Il n'y a pas forcément de scénario ou d'histoire derrière, c'est juste.
Ça ressemble à du. Comme du porn,
mais c'est le gonzo de.
On appelle ça le torture porn, donc ton terme est pas déconnant dans le sens.
Mais tu vois, genre tu vois juste des gens vomir, enfin tu vois genre.
Oui oui non mais
sans scénario, enfin tu vois le scénario est juste un prétexte au final.
Bah, ou alors la pornographie, si tu parles de, j'ai l'impression qu'il y a l'idée fascination un peu, ça va chercher des trucs en toi comme ça qui te dérange, tu vois, mais bon. Il y a quelque chose de proche de ça, le spectacle un peu comme ça, tu vois, sans limite d'un truc, tu vois, limite.
J'ai une question du coup, je rebondis sur ce que tu dis quand tu parles de je suis sensible. C'est l'autre question que je voulais vous poser par rapport à ce qu'on disait sur le seuil, etc. Machin. Est-ce que vous pensez que, enfin, bon, du coup, la réponse est oui, mais j'ai envie de vous entendre parler dessus. Est-ce que vous pensez qu'on peut être très sensible et kiffer quand même les films d'horreur ?
Bah, en fait, je pense que. Tu vois, moi, je suis aussi extrêmement sensible, surtout quand je vais au cinéma. En effet, je pleure beaucoup, j'aime avoir très peur. Et je pense que ce que je recherche, justement, c'est qu'on vienne titiller ma sensibilité, tu vois. Que mon extra-sensibilité, on vienne et on essaye de la gratter encore plus. Et ce que j'aime, c'est ressentir ces trucs-là. J'adore pleurer au cinéma, j'adore avoir très, très peur. J'adore qu'on me glace les sangs. Depuis la première fois que j'ai vu Vincent, qui était un court-métrage de
Tim Burton.
Mon voisin de palier.
C'était génial. Et j'étais tombée sur ce court-métrage. Parce que c'était le cours qui était à l'époque sur la VHS de L'étrange Noël de Monsieur Jack.
Exactement.
Tu te souviens ? Ouais. Et j'étais tombée là-dessus, ça m'avait glacé les sangs. Et tous les jours, je le regardais en boucle. Ça provoquait un truc chez moi. J'aimais ressentir la peur le soir venu, tu vois, avoir l'impression de presque un souffle qui me chatouille le cou, tu vois, tellement ta machine
à
penser
vient. Je comprends pas ça.
Mais c'est, je sais pas, c'est peut-être du masochisme, mais.
Non, mais et Alt, je pense que c'est pareil, mais moi je comprends pas comment, pourquoi on kiffe ça, vous kiffez ça.
Ça extériorise aussi, c'est des peurs que t'as plus en toi, que tu poses sur un support qui sont quelque part. Enfin, je parle pour moi, pardon, mais
j'ai plus un. Il y a des, non, je t'en prie, il y a des spécialistes du cerveau qui disent qu'en fait l'horreur, ça, en fait t'as des réactions chimiques à l'horreur, ça sécrète, enfin ça te fait sécréter des endorphines, et en fait t'as plein de mecs qui disent que l'excitation que tu ressens quand t'es en train de flipper ta race, eh ben elle est proche de l'excitation sexuelle au début de quand ça vient, tu vois, et en fait si c'est aussi proche en termes de chimie qu'on te fout dans, je sais pas trop comment ça fonctionne, hein, tu as compris. Je n'ai que la moitié des infos, mais du coup, ouais, il y a vraiment quelque chose de jouissif dans le premier sens du terme, quoi.
D'accord. Bah,
et moi, je pense pour aller dans.
Je jouis de manière très différente.
Peut-être.
Mais c'est sûr. Mais chacun a son truc. Je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi, c'est que on n'a pas la même. Attends, j'ai perdu mon idée du coup. qu'est-ce que je voulais dire ?
Pourquoi
on n'a pas le même chemin, le même destin ?
Pourquoi on prend pas plaisir à se faire, pourquoi on se fait du mal à se faire du bien, en fait, pourquoi on va regarder
c'est un truc très con et pas hyper fun, mais moi par exemple j'ai vachement peur de la mort, je pense comme tout le monde, et en fait le cinéma
pourquoi la mort, c'est pas
moi je trouve ça fun, hein.
Bah c'est fun, mais du coup moi j'ai fini par trouver ça fun grâce au film d'horreur La Mort, tu vois, enfin pas vraiment fun, mais dans le sens où le cinéma, t'es dans un setup qui est safe, t'es au cinéma, etc., et tu peux te dire ok, je suis, il va rien m'arriver physiquement, mais mon esprit va pouvoir aller dans des zones où dans la vraie vie clairement j'irai jamais
c'est
là-dedans.
C'est une catharsis quoi.
C'est complètement une catharsis et je pense que voilà, il y a aussi un exercice de faire face aux choses que tu refuses de voir et du coup ça fait penser à Mithridate qui était un empereur qui prenait tous les jours un peu de poison en se disant si un jour je me fais empoisonner je serai préparé. Bon, il s'est fait poignarder pour le coup mais on appelle ça la mithridatisation. La mithridatisation c'est le fait de faire un petit peu de trucs chaque jour pour que si un jour ça t'arrive bah, tu seras prêt quoi. Et je pense qu'il y a un tout petit peu ce truc là dans le film d'horreur qui est un entraînement. Tu vois, moi contrairement je peux pas aller au parc Astérix et faire Space Mountain, c'est impossible.
Ah c'est vrai.
Ah, c'est impossible. Ça c'est alors que je peux regarder des trucs absolument horribles et kiffer.
Les amis, avant de commencer notre débat du meilleur monde, je vous propose de faire un petit rapido quiz. Hein. Le principe est simple, on vous pose des questions de manière assez rapide. Vous dites ce qui vous vient la première chose qui vous vient en tête et ça va très bien se passer. Cyrus, je te laisse commencer avec Kalindi.
Kalindi, est-ce que tu es prête pour un rapido quiz?
Très peu, mais allons-y.
Si t'étais un monstre, tu te cacherais où pour faire peur?
Dans une cave.
T'es team Buffy ou Sabrina l'apprentie sorcière?
Buffy.
Quelle qualité principale il faut avoir pour devenir nettoyeur de scènes de crime?
Résistance.
C'est quoi le meilleur déguisement que t'aies fait toute ta vie?
J'étais une cabine de douche.
C'est quoi ton chair de poule préféré?
Le fantôme du lac Mécouille.
D'accord. Si tu vas en enfer, tu te mettras en coloc avec qui?
Trump.
C'est quoi la meilleure arme pour commettre un crime?
Un gigot.
En vrai, t'as vu combien de films Twilight?
Tous.
Bravo.
Merci, putain, c'était pas si mal.
Gigot, ouais. Référence à Roald Dahl ou
tout
pas?
Tout à fait.
Bravo, c'est bon.
C'est quoi la ref?
Meilleur meurtre, c'est une dame qui tue son mari avec un gigot, les flics viennent et elle leur sert le gigot. Et ils mangent l'arme du crime, ça défonce.
Waouh.
Putain, c'est fort ça.
Oh, je suis contente, tu vois. Oh.
C'est du recueil bizarre de Roald Dahl que je vous conseille, qui est mortel. C'est que des nouvelles pour adultes, pas du tout pour enfants.
Parce qu'il a fait beaucoup de livres pour enfants, du coup.
Ouais, mais là, c'est pour adultes et c'est que des bijoux de darkness excellents.
Trop bien.
Bravo, bel exercice, Kalindi.
Bravo.
Merci beaucoup, merci.
Alt, t'es chaud?
Non, vas-y.
Ok, c'est parti. Ce sera quoi ton épitaphe?
Dommage.
Est-ce que tu peux me citer un monstre? Est-ce que tu peux me citer un monstre gentil?
Un monstre gentil, les gremlins, je sais pas.
Ils sont pas hyper gentils.
Ouais, mais ça va quoi. C'est mimi.
Ils y cachent quoi en vrai dans la zone 51, les Américains?
Des avions militaires nulos.
Si t'étais un fantôme, tu viendrais hanter qui?
Ma femme, je pense.
Est-ce que tu peux me citer? Est-ce que tu peux me conseiller un bon film d'horreur français?
Martyr.
Pourquoi les gens ils se séparent à chaque fois dans les films d'horreur?
Parce que sinon ce serait pas drôle, ils mourraient pas.
Tu fais plus confiance au FBI ou au Scooby Gang pour résoudre un crime?
Scooby Gang, clairement.
Si t'étais cannibale, ce serait quoi ton petit plaisir coupable?
Le lob. Facile.
Merci.
Mais je suis contente parce que t'as répondu à Martyr et je pense que Laugier c'est mon réalisateur français préféré et d'ailleurs je conseille aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent le dernier qui s'appelle Ghostland qui est vraiment une merveille d'horreur qui a d'ailleurs gagné le festival de Gérard Armé en février. C'était extrêmement bien. Voilà.
Alors que j'avoue que film d'horreur français, je m'attendais à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
Alors c'est un autre type d'horreur, mais ça on peut en parler. Par contre Martyr, je préviens pour les audiences.
Il fait très peur, ouais.
Non, c'est pas qu'il fait
très... Enfin, il est très gore.
Ouais.
Il est ultra traumatisant.
Moi, il m'a traumatisé un peu.
Ah ouais, Martyr, moi aussi. Je l'ai pas revu, tu vois. Je me souviens de toutes les séquences. Mais vraiment, il est super dur. Mais il est ouf.
Tout comme Ghostland, mais d'ailleurs juste une petite précision, c'est qu'à l'intérieur, il y a des scènes de baston entre meufs comme on ne voit jamais au cinéma. Ce qui moi m'a vraiment bluffé. T'as toute une scène où Mylène Farmer démonte la gueule d'un gars à base de fer à repasser et de couteaux. Et vraiment, cette scène extraordinaire.
Ça donne envie. Voilà. Autant Martyr, j'avoue, je le verrai jamais. Mais ça.
La violence des meufs dans ce film est dingue. Et juste pour ça, faut voir Ghostland. C'est très très bien.
Chers amis, je vous propose qu'on rentre un petit peu dans le débat et qu'on essaie d'élire ensemble le meilleur monstre.
Tout à fait.
Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou est-ce que j'impose qui prend la parole?
Moi, je pense, je propose qu'on commence par.
Ok, Cyrus.
Ah bon? Pourquoi?
Toi, ouais. Toi, le pire monstre, c'est quoi? Ça doit être Pikachu, non? Le truc le plus effrayant que t'aies vu.
Ok. Alors, moi, il y a un monstre. Donc, quand Tom m'a posé la question, je me suis rappelé un peu tous les trucs que j'ai vus, etc. Et au début, c'est marrant parce que j'avais une image du monstre qui était forcément un truc difforme, en fait. Un truc avec des têtes, machin. Et en fait, en parlant avec Tom, je lui ai demandé, mais est-ce qu'on peut parler des fantômes? Est-ce qu'on peut parler des démons, ce genre de trucs? Et il m'a dit, oui, bien sûr. Enfin, tout ça, c'est des monstres, tu vois. Et donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et après, je me suis rappelé d'un téléfilm que j'avais vu.
Putain.
Et
c'est beau.
Et c'est un téléfilm en fait qui s'appelle Storm of the Century, donc la tempête du siècle. Et c'est une mini-série américaine réalisée par Craig R. Baxley d'après un scénario original de Stephen King. Donc Stephen King avait écrit juste pour ça.
Ah oui, la tempête du siècle. Oui, c'est
ouais. Tu vois ce truc
ouais. J'ai pas lu, mais je vois très bien. Oui, c'est de King.
Et bah,
mais ça a à voir avec The Mist ou pas?
Non.
Non, pas du
tout. Mais entre guillemets, ça n'a pas de sens de dire je l'ai pas lu parce qu'il l'a écrit pour
d'accord, okay.
que ce soit directement.
D'accord.
Ah, il a fait le scénar de
voilà,
la série.
Okay. Exactement. Pas, et donc il y a un mec qui s'appelle André Linoge qui arrive.
Excellent nom.
C'est un excellent nom parce que c'est un anagramme. Et je vais vous l'expliquer tout de suite. Pourquoi. Et donc il arrive en fait dans un endroit où genre c'est une tempête de ouf, machin, etc. Et en fait, ce mec-là. Il arrive au contact des gens, à ressortir. Il connaît en fait, voilà, il connaît les vices et les pires secrets de tout le monde dans le village, tu vois. Et donc en fait, il arrive à diviser le village de ouf. Ça devient très très vite la merde. Et donc quand il part, à un moment il part avec un des enfants. Putain, je spoil là. Attends.
Ouais, mais personne va les. Enfin, je suis désolé.
Non mais il est
je
ouf.
Je veux pas manquer de respect à ce téléfilm, mais
mec,
déjà,
il sort tous les. Mec, je l'ai vu 2-3 fois à la télé. Il sort tous les tout à tous les Noëls ou tous les Nouvel An, je sais pas quoi. Donc
Fais-nous peur sans spoiler, vas-y.
Attends. Donc je vais faire un spoiler, mais bon, peut-être que vous verrez jamais ce téléfilm. Mais en fait, il repart avec un des enfants du village, et en fait, cet enfant, il va devenir son apprenti, tu vois, son disciple. Et ce mec-là, donc Linoge, c'est un anagramme pour Légion. Et Légion, c'est l'un des démons, l'un des plus gros démons de la Bible.
C'est même
un
démon qui comporte plein de démons.
Exactement.
En lui.
Exactement. Et en fait, ce mec-là, genre dans le film, il est hyper badant parce qu'il est hyper neutre en fait. Il est hyper calme, il est hyper machin. Et je me suis dit putain, ça c'est un monstre pour moi qui me fait hyper flipper. Et je me dis mais du coup c'est qui le gars qui est au-dessus de ça? Bah c'est le diable en fait. Parce qu'en fait moi quand j'ai vu ce film, avant de faire mes recherches. J'ai projeté en lui le diable. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est le diable, ce gars.
The pure evil.
The pure evil. Et en fait, non, c'est juste que Légion rapporte même au diable. Tu vois, les démons rapportent au diable. Donc, le diable, c'est le maître de l'evil. Tu vois, s'il y a Dieu, et face à ça, il y a le diable. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant avec le diable, c'est déjà toutes les formes qu'il a, à travers toutes les cultures, etc. Machin, c'est le côté ancestral du truc. C'est peut-être le premier monstre, en fait, au final. Tu vois, c'est un monstre... Enfin, tellement vieux, tu vois, genre qu'il y a depuis l'Antiquité en fait. Et donc voilà, je crois que c'est mon meilleur monstre, c'est mon monstre préféré parce que c'est le pire aussi, c'est celui qui est capable du, c'est la source vraiment du mal. À un moment, il y a un truc assez fort que je lisais donc en renseignant sur le diable, c'était dans l'Évangile de je sais plus qui, où il parle donc je sais plus si c'est Lucifer,
Thierry,
Satan,
Thierry, je crois.
Ouais, Thierry.
Xavier,
hein. Ouais, c'était l'Évangile de Thierry. Et dedans il dit genre que le diable en fait il dit pas de mensonge parce que pour lui parce qu'il ne détient pas la vérité en fait le concept de vérité est tellement loin du diable que le diable est mensonge, tu vois ce que je veux dire, et genre je trouve ça tellement fort en fait que il fait pas de choix le diable entre le bien et le mal, c'est le mal, tu vois.
Ouais.
Et je trouve ça balèze.
Ouais, c'est balèze.
Sachant que pour éclaircir un peu la discussion qu'on est en train d'avoir, ce que j'ai demandé aux invités de cet épisode, c'était de choisir le meilleur monstre dans le sens le plus terrifiant. Mm-hmm. C'était de se mettre sur ça. C'était de se dire pour nous le meilleur, celui qui va nous faire le plus flipper, bah, qui est vraiment le plus terrifiant.
Moi, c'est celui que j'aimerais le moins rencontrer.
Oui, bien sûr. Mais voilà, c'était pour expliquer
parce
pourquoi
plus,
aussi.
Il propose des pactes.
Non, mais le diable,
il propose des pactes.
Oui,
ou genre.
Non, c'est une très. Bah, t'arrives
avec du
gros monstre.
Avec
ouais.
Le boss du game, un peu genre.
C'est ça.
Mais c'est cool.
Kalindi, c'est quoi ton monstre, le meilleur monstre pour toi?
Le meilleur monstre pour moi. Alors, déjà, je voudrais préciser que cette question est très, très ardue. Car en fait, par monstre, tu peux entendre plein de choses. T'as des monstres physiques, des monstres moraux, des monstres politiques et sociaux, et légendaires, tout ça. Ça fait beaucoup de choses. Mm. Et en fait, j'avais envie, pour choisir mon meilleur monstre, de choisir un gars qui cochait plusieurs de ces cases-là. J'ai donc choisi The Thing, la chose de The Thing, qui est un film de Carpenter, sorti en 82. Je pitch maintenant, n'est-ce pas?
Yes, sans spoiler, évidemment.
Sans spoiler. Alors,
bon courage.
Imaginez-vous, c'est en 1982, on est en Antarctique, et il y a 12 chercheurs scientifiques qui sont sur une base de chercheurs scientifiques, perdus dans la glace, un espèce d'enfer paranoïde, voilà, ça fait peur. Et de là, ils vont découvrir, en très gros, un corps qui a été enfoui pendant plus de 100 000 ans, je crois, dans la glace. Une créature qui, une fois déterrée, trouvée, parvient à répliquer les formes... Cette créature extraterrestre est en fait métamorphe et peut prendre l'apparence de n'importe qui sur le camp, que ce soit un chien, un individu. Ce qui donc va instiller un sentiment horrible parmi tous ces personnages, qui est d'où vient le mal ? Est-ce que je suis le mal ? Est-ce que mon voisin est le mal ? Est-ce que le chien est le mal ? Où se cache le monstre ? Et c'est ça qui est très très fort, c'est qu'on ne sait pas d'où vient la menace. Toutefois, et c'est pour ça que j'ai choisi ce monstre, c'est qu'il prend l'apparence donc, de plusieurs personnages tout au long du film, mais aussi il a une apparence, il se dévoile lui aussi de temps en temps, et ce monstre est absolument extraordinaire pour son apparence physique, c'est-à-dire que c'est une espèce de tas de chair déchiquetée, quelque chose de très organique dans lequel va y avoir des visages qui vont apparaître, c'est abominable, et en fait ce que j'adore c'est que c'est Jacques Tourneur je crois qui disait que en fait, la source du mal ne faisait plus peur une fois qu'on voyait la source du mal. Et ce que j'adore avec la créature de The Thing, c'est que même quand tu l'as découverte, tu continues à avoir peur de cette créature. Peu importe que tu l'aies vue une ou dix fois, à chaque fois que tu la vois, t'es là « C'est horrible !» Et donc, ce monstre est génial parce que de un, il fait très peur. Il a été créé par un type qui s'appelait Rob Button, je crois. C'est ouais. Ça, hein ? Qui, lui, a passé un an à taffer sur la création de ce monstre. Un an pendant lequel le gars n'a pas dormi, n'a pas pris de vacances. Il est sorti de cette création malade quand le tournage a commencé. Enfin, ça a été un enfer. Et donc, la créature est vraiment absolument terrifiante. Il y a ça, oui, tout à fait.
Je me permets d'interrompre.
Ouais, je t'en prie.
C'est quoi, c'est un artiste peintre, enfin comme ça il a conçu
un artiste en effets spéciaux quoi, c'est lui qui a fait les moulages, les dessins, enfin qui a fait toutes les formes du truc quoi, avec du latex, qui les a peints,
il a construit physiquement
il a vraiment fait ce qu'il a fabriqué quoi,
c'est le papa papa de la créature.
On n'en parle pas assez de ces gens là, t'as bien raison, parce que c'est eux qui font beaucoup l'horreur plus que le réel qui dit je veux un truc dégueulasse et organique. C'est lui qui va dire ok, c'est quoi la forme la plus horrible, et en ça The Thing est incroyable quoi,
c'est vraiment du génie. Et donc la créature est absolument abominable, et c'est ce qu'on lui demande d'abord, c'est ce qu'on demande à un monstre, c'est d'être abominable. Et puis j'aime cette idée de le mal, ça peut être n'importe qui, ça peut être l'autre, tu vois, c'est l'enfer, c'est les autres, c'est exactement ça. Et en plus ça coche une case sociale, puisque ce film c'est un peu une métaphore de l'émergence du sida, et donc évidemment ça colle à l'actualité de l'époque, et ça fait donc du monstre quelque chose d'extrêmement réel. Donc l'horreur s'infiltre dans le réel et on est sur quelque chose de parfait quoi. Pour moi c'est le meilleur monstre. J'ai beaucoup réfléchi parce que en vrai avant je voulais faire Freddy. Et puis...
Freddy Gladieux, avec qui on a fait un podcast, hein, justement.
C'est vrai qu'il est monstrueux.
Ouais, qui est assez horrible, on est d'accord.
Mais tu vois, d'ailleurs...
Vous avez la chance de ne pas le voir, mais nous, on était là à côté de lui. Il est hideux, c'est vraiment.
Dieu. J'ai peur de ce que ça va être, Alt, quand on va partir. C'est le clair. Prochain épisode, ça va tailler. Mais en fait, j'ai failli prendre Freddy pour à peu près les mêmes raisons.
Trop, parce que c'est celui que j'ai pris, quoi.
Ah merde, pardon.
Non, mais t'inquiète,
ça crée une très belle transition.
C'est trop cool. Non, mais c'est très très bien. Je suis contente de ne pas l'avoir pris du coup. Mais en fait, ce que j'adore aussi dans Freddy, c'est. Je sais plus dans quel opus c'est, mais en fait, quand on révèle son torse, ça devient des.
Le torse des âmes.
Le torse des âmes. Et il y a ce côté organique, de la chair qui se déchiquette et tout, machin.
C'est plutôt body horror, dis-le.
Ouais, j'adore. J'adore. Il y a un truc très érotique en réalité, tu vois, même dans la créature de The Thing qui est abominable. Il y a quand même un truc érotique.
Mais attends, comment ça un truc érotique. Moi j'ai une question sur l'érotisme.
La chair.
Il y a un truc dans la chair, tu vois, et
dans la souffrance. Enfin, je veux dire, t'as aussi une espèce de plaisir dans la souffrance. Enfin, c'est des trucs très mêlés, quoi. En fait, tu peux y voir des choses.
Comme dans Hellraiser, ton film préféré, du coup.
Je sens que tes chakras s'ouvrent comme jamais pendant cet épisode.
Non, mais moi je suis en train de me rendre compte qu'il y a tout un pan de ma sexualité que j'explore pas du tout,
visiblement. Bien sûr, mais c'est clair, mec. Tiens, montre tes tétons là.
Alt, toi t'as choisi Freddy Krueger.
Ouais.
Bah vas-y, est-ce que tu peux nous raconter un peu de qui il s'agit ou de quoi il s'agit?
Alors, je vais faire un préambule du coup, puisque tu te demandes pas. Et comme t'as cité un film tout à l'heure, je voudrais juste faire en une minute parler de It Follows, un film complètement ouf, qui est un peu un contre-pied parce qu'en gros, je spoil pas, mais du coup c'est un contre-pied de ouf sur le monstre cinéma, dans le sens où il est plus ou moins... Enfin, il prend une forme complètement inédite, donc j'invite juste les gens à aller le voir parce que c'est un super twist, qu'il est génial, et une vraie esthétique, et un concept de mise en scène qui est terrifiant, et en fait justement en montrant très très peu, donc ça j'invite les gens à aller le voir. Et moi j'ai parlé de Freddy parce que pourquoi est-ce que, quand j'ai pensé meilleur monstre, je me suis dit ok, un monstre il y a plein de composantes qui font qu'on les kiffe, et du coup il n'y a pas que juste le fait il m'a fait peur. Je pense que un vrai monstre que t'adores, il doit te fasciner. Donc la fascination, c'est ce truc qui est à la fois la terreur et l'adoration, une espèce de truc mêlé où t'adores et en même temps tu bat trip de ouf. Et Freddy, je trouve que Alors déjà, pourquoi lui? Parce que gamin, il m'a fait flipper avant même que je voie un film. Je me souviens, au Mammouth, ça existait, c'était avant Carrefour, ça s'appelait Mammouth, genre. Et du coup, il y avait un truc DVD, enfin, cassette VHS, pardon. Et du coup, il y avait les cassettes de Freddy, et il posait avec son pull vert et rouge, son chapeau, il a le visage brûlé entièrement. Donc ça fait partie de sa mythologie, mais on y reviendra peut-être. Et il a surtout un gant avec, à la place des doigts, des espèces de lames de ciseaux qu'il a séparées en deux, quoi, pour avoir juste une lame de ciseaux. Et du coup, bah, il tue ses victimes comme ça. Et ce qui est ouf, c'est que j'ai fait un rêve de Freddy avant de voir un film de Freddy.
Parce que horrible.
Pour expliquer aux gens, Freddy, c'est une créature qui vient dans tes rêves au moment où tu t'endors. Et il vient, du coup, il rentre dans ta psyché, il te bute.
D'où l'épisode de Rick et Morty où il y a le rêve de Freddy.
Exactement.
Mais moi, vu que j'ai jamais vu Freddy, bah voilà, j'ai pas compris. Ouais. Et je pensais que c'était juste gratos, quoi.
Sachant que s'il te tue dans tes rêves, tu meurs en vrai.
Voilà. Et du coup, moi, mon rêve, il est très simple. Je rêvais que j'étais sur un terrain de basket dans mon école. Il y avait juste Freddy contre moi. On était en 1-1.
Oh putain, mec, j'espère que tu l'as éclaté, mon gars.
C'est le pire rêve.
Il m'a coupé la tête. J'en dirais qu'il a pas discuté. Il m'a coupé la tête et il a mis un panier avec ma tête. Mais je voyais encore comme si la caméra était dans la tête. Tu vois, j'avais genre 12 ans. Enfin, ça m'a traumatisé.
Wow.
Et plus tard, à 18 ans, quand j'ai commencé à regarder les films, je me suis dit, bon, bah vas-y, j'avais vraiment ultra peur des films d'horreur. Et en gros, quand j'ai commencé à regarder Freddy, pour moi, il coche énormément de cases de ouf. Il a une mythologie de dingue, c'est-à-dire que c'est les parents. En fait, c'était un child molester, quoi. Il a touché des enfants. Donc les parents ont voulu se venger, ont mis feu à sa maison, donc il y a très longtemps. Et ils l'ont brûlé. Sauf que là, à ce moment-là, il y a les démons du rêve qui sont arrivés. C'est trois espèces de tétards chelous et tout qui sont venus. Depuis la nuit des temps, ils sont là et ils choisissent quelqu'un qui va être le monstre des rêves, quoi, le démon des rêves. Ils choisissent Freddy, qui dit oui. Et Freddy, en fait, vient se venger des parents en tourmentant les enfants qui sont donc, tu vois, 20 ans plus tard. Et les gamins, donc, font tout pour pas s'endormir. Donc, c'est vraiment une terreur de ouf parce que le sommeil, au bout de deux jours, tu vas finir par t'endormir.
T'as pas d'échappatoire.
Donc, il y en a qui se brûlent avec des clopes, il y en a d'autres qui essayent de discuter, etc. Donc, toujours être ensemble pour pas dormir. Et alors, la dernière chose que je trouve, qui je trouvais géniale chez Freddy, c'est qu'il a beaucoup d'humour, un humour assez psychanalytique, vraiment de mauvais goût, de ouf. C'est-à-dire, si je sais pas, je dis une bêtise, si t'es anorexique, qui va te faire mourir en te faisant maigrir de dingue. Il y a un épisode qui est génial qui s'appelle Dream Warriors, qui est le 3, et où c'est des gamins
le
qui
meilleur.
Du coup, c'est un des meilleurs, j'avoue.
C'est mon préf.
Moi aussi. Et du coup, c'est le plus pop, le plus généreux, on va dire, un côté un peu Goonies. Enfin, c'est génial. Et en gros, c'est des gamins qui sont en HP parce qu'ils ont tous vu Freddy plus ou moins. Et en gros, Freddy vient les voir la nuit et eux, ils essayent de lutter contre lui. Ils se rêvent en fait une entité un peu héroïque dans le rêve où ils pourraient battre Freddy. Sauf que Freddy, il y a une fille qui est accro, il la bute en transformant ses lames en seringues, tu vois, et elle a des bras avec des trous dans les bras. Il lui plante ses seringues dans les bras et elle meurt. Enfin, tu vois, c'est des trucs hyper dark et qui sont liés, et c'est ça qui était intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, qui sont liés à ta psyché, quoi. Ils vont chercher chez toi le truc le plus terrifiant. Et il te tue, voilà. Donc c'est un putain de méchant génial, quoi, Freddy.
Ouais, ouais. J'avais fait un dîner avec des mecs du PsyLab qui ont une chaîne qui parle de psychologie, etc. Machin. Enfin, c'est des psychiatres. On a fait un truc sur Hannibal. Et je me souviens que moi, mon exposé, c'était sur la cruauté et l'empathie, en fait. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que pour être le plus cruel possible, tu dois avoir de l'empathie. Pour essayer de comprendre ce qui fait mal à l'autre, tu vois. Et en fait, au lieu d'utiliser ça pour le bien, tu vas l'utiliser pour le mal. Voilà, c'est juste...
Bonne intervention.
Très bien.
Et l'autre bout de ça, ce serait justement Michael Myers, qui est le tueur absolument zéro empathique, tu vois, qui du coup a aucune émotion et qui fait peur par le coup.
C'est qui Michael Myers ?
C'est les films
Halloween.
Et qui du coup, lui, il prend le contre-pied de ça en ayant un masque mortuaire qui bouge pas, et il a pas de posture et tout, mais c'est ça qui le rend terrifiant aussi.
Et puis il a pas de ligne de dialogue et tout, donc je crois que c'est vraiment juste.
Non, il est complètement muet,
quoi. Si j'avais pris part à ce débat entièrement.
Mais oui, Tom !
Non, j'aurais choisi également Freddy Krueger parce que c'est celui qui m'a le plus traumatisé et que, pareil, en fait, j'ai un équilibre un peu malsain envers Freddy où je suis hyper flippé par lui, mais je le trouve aussi trop stylé, quoi. C'est-à-dire que j'arrive à avoir ce détachement quand je vois un Freddy où je me dis, allez, j'espère qu'il va faire une mise en scène trop stylée, qu'il va prendre une apparence géniale, parce que c'est un point qui est aussi important, qui fait le lien avec The Thing, c'est que Freddy, il est un peu polymorphe aussi. Il peut prendre l'apparence de n'importe quel objet, de n'importe quelle personne. Ça peut être cette chaise sur laquelle je suis assis, les mains vont se refermer autour de moi.
Exactement,
et vont
ouais.
me tuer. Donc ce que je trouve hyper flippant, ce que j'adore chez lui, c'est que le danger peut survenir à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment.
Ouais, tous les métamorphes sont comme ça, je pense à Pennywise aussi dans ça, qui a ce côté-là, du coup il connaît ta peur, il va prendre une forme hyper, hyper horrible. Ça c'est très intéressant. Mais moi j'irais même plus loin que toi, dans le sens où moi je préfère les méchants dans les films en fait. Il y a pas de doute, un héros, il n'y a rien de plus chiant. Moi si je regarde un
sauf
film...
Sauf les anti-héros alors à ce moment-là,
oui,
qui sont quand même
si
cool
tu...
aussi.
Mais tu anti-héros
oui,
mais
oui,
genre
ouais,
le héros, bon généralement, voilà, dans un film, moi ce qui m'attire vers le film c'est que je veux que le méchant soit badass, qui me fascine et c'est pour lui que je regarde. Clairement, moi j'assume complètement ça quoi. et parce que ça, il est beaucoup plus intéressant, il y a beaucoup plus de relief dans un monstre que bon, dans un héros qui est là pour gagner, quoi, en gros, tu vois.
Ça dépend, en fait, des slashers, par exemple. Tu vois, tu vas regarder Scream, surtout pour son personnage à elle. Et d'ailleurs, c'est très cool parce que j'en profite pour souligner que dans les slashers, c'est souvent les meufs, et c'est trop rare dans le cinéma pour ne pas être souligné, qui sont, elles, les héroïnes des films et qui arrivent à s'en sortir, même quand elles ont en face d'elles des psychopathes complètement starbés.
Et ça s'appelle même, c'est un nom, c'est les Final Girls. Ça s'appelle, c'est les filles de la fin, quoi. Et c'est une constante du slasher, en effet, quoi. Ouais.
Et c'est très bien. Mais du coup, je pense à Scream et je me dis, en fait, comme le méchant n'est jamais la même personne, finalement, tu vois le film pour Sidney Prescott et de comment est-ce qu'elle va s'en sortir cette fois-ci, par quelle ruse elle va arriver à venir à bout de ce type-là qui encore une fois a décidé de s'en prendre à elle. Voilà.
Je voulais juste en profiter aussi, Cyrus, t'as parlé de Hannibal et du coup c'est vrai que ça aurait été mon second choix, je pense, que cette figure du monstre, on parlait de ce truc un petit peu d'avoir de l'empathie, cruauté, ce truc un peu d'adoration aussi. Pour moi, Hannibal, c'est le summum de tout ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un monstre horrible. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas.
Non, moi j'ai pas vu.
Okay.
Mais Hannibal, tu parles duquel?
Le premier, le Silence des Agneaux.
Oui, bien sûr.
Le Silence des Agneaux. Du coup, rapidement pour pitcher, ça raconte l'histoire d'une agent du FBI, de la CIA, FBI, qui enquête sur un tueur en série qui aurait potentiellement un modus operandi assez proche d'un serial killer qui est déjà emprisonné, qui s'appelle Hannibal Lecter, qui est donc cannibale, anthropophage, mange des humains. J'ai pas d'autres déclinaisons. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'elle aille prendre des renseignements auprès de Hannibal Lecter pour essayer de comprendre comment fonctionne l'autre tueur en série et essayer de l'arrêter. Sauf qu'Hannibal Lecter est un immense manipulateur et quelqu'un d'extrêmement intelligent qui est cloisonné dans une prison avec 20 000 niveaux de sécurité pour y accéder et tout. Enfin, il y a un mur en plexiglas de ouf. Enfin, bref, c'est vraiment le truc hyper protégé. Et tout le monde dit, attention, si tu vas lui parler, fais bien attention parce qu'il va te manger psychologiquement, quoi. Vraiment, ne lui donne aucune info sur toi et tout.
Mais toi, c'est le monstre humain, en fait, parce qu'on ne l'a pas abordé, mais finalement, le plus flippant de tous les monstres, c'est celui qui te ressemble, en fait.
Ouais.
Tu vois, qui annonce pas la couleur, voir un monstre, c'est que je sais plus qui disait ça, mais c'était toi, à partir du moment où tu vois le monstre, effectivement, enfin, dans Jaws, Les Dents de la Mer, tu vois un bidon pendant tout le film, ça te fait bader, à la fin, tu vois le requin, tu fais ok, ouais. Mais c'est pas ça qui te fait peur, c'est pas le requin de la fin, c'est tout le moment où on te dit tu vas le voir, tu vas le voir. Et un des génies de Scream, pour revenir dessus, c'est qu'il a fait dans sa scène d'intro avec l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, qui a joué dans E.T., là, je perds.
Drew Barrymore, mais...
c'est elle qui joue dans l'intro. Et en fait, la scène d'intro est absolument dégueulasse. Je sais pas si vous vous souvenez, elle est pendue.
Du premier Scream, quoi.
Elle est horrible, quoi. Et du coup, ça te met une tension de malade, parce qu'elle est gore et tout, quoi. Et alors que pendant tout le reste du film, t'as pas d'équivalent gore. Mais comme on t'a mis un marqueur hyper fort au début, tu dis putain, ça va se repasser. Et ils vont faire pire, puisqu'ils ont commencé par ça. Et jamais ils font pire. Mais c'est une super technique pour te mettre mal, en fait, d'entrée de jeu et jouer avec tes nerfs sans jamais y aller, quoi. Et ça, c'est ouf, quoi.
Tout à fait.
Wes Craven, quoi.
Ouais. Et je voulais juste finir mon point vite fait sur Hannibal, où ce que je trouvais assez ouf, c'est que psychologiquement, c'est une brute, et physiquement aussi. C'est-à-dire qu'il est capable d'atrocités dingues. Il y a une scène où il se passe quelque chose de kiffé, voilà, sans spoiler, avec des gardes, qui est très bien mené, qui est très bien exécuté. Et c'est là où il fait trop peur, c'est que tu dis, ouais, bon, il est... Ouais, il fait peur, il est flippant, c'est un fin psychologue, mais c'est aussi une brute. Et comme c'est un être humain, comme il n'y a pas une notion de surnaturel, moi j'aurais voté pour ce monstre-là.
Mais alors est-ce que c'est un monstre? C'est ça la vraie question. Est-ce que dans monstre, on n'entend pas une part de fantastique?
Non, un monstre, c'est un monstre humain.
Ouais, je pense. Il n'y a pas de souci. Bah, du moment où tu manges des gens, quand tu as quand même des actions qui sont surhumaines, qui dépassent le contrat entre les humains, tu vois. Pour moi, oui.
L'humain peut être un vrai monstre, bien sûr.
Mais c'est juste que quand on va dire un film de monstre.
Pas dans cette thématique-là.
Un tueur en série, c'est un monstre, tu vois. Genre un mec comme Ted Bundy, par exemple.
Oui, mais. Ouais, mais pour moi, dans tel que j'imaginais en tout cas la discussion, c'était des monstres genre Frankenstein, Dracula, etc.
Mais c'est bien de porter le débat au-delà d'un monstre soit fantastique, soit juste de pure fiction, tu vois. C'est intéressant d'avoir un monstre humain.
Ça pose plus la question du monstrueux que du monstre, parce que c'est vrai que le monstre, quand on dit un film de monstre, tu t'attends pas à voir Hannibal Lecter, tu t'attends à voir
Luke Cage.
Mais en même temps, moi je suis hyper d'accord pour étendre jusque-là, sinon c'est pas intéressant, ça nous reste dans une petite niche, alors que t'as des monstres, des enfants, t'as plein de films avec des enfants qui sont des méchants en gros et qui sont ultra terrifiants. Parce que là,
ça ouvre trop, tu vois. Genre, on pourrait parler de Trump, par exemple, tu vois.
Tout à fait.
Mais est-ce que finalement, l'homme n'est pas un loup pour l'homme? Est-ce que l'homme n'est pas le monstre?
Si, mais c'est parce
l'homme est-il un monstre ou le monstre un homme?
Voilà, bien sûr.
Oui, mais parfois, la réalité dépasse la fiction, tu vois. Genre, il y a des mecs qui ont été emprisonnés qui sont
Bien sûr, tout, mais bien plus la réalité, il y a rien de pire que la réalité, de toute façon, ouais, voilà. Ça part comme ça, évidemment, mais je veux dire, t'as aussi une question de traitement, c'est ce qu'on disait pour un exemple tout con, il y a Ed Gein qui était un serial killer qui a donc dépecé des gens, qui les mettait, qui allait danser la nuit habillé avec des peaux de femmes, tu vois, c'est un vrai fait divers, c'est sorti dans les années 40, ça a défrayé la chronique, et du coup, il y a Hitchcock qui a pris un bout de cette histoire pour faire Psychose, parce que le mec gardait sa mère morte dans sa chambre, donc il a repris cette idée pour Psychose.
On est sur un spoil là, directement, par contre.
Ouais, mais en Psychose, là, il y a prescription, ouais. Désolé.
Ah, j'avais pas vu.
Et du coup, bon, bah... Mais c'est pas l'intérêt de Psychose.
Non, d'accord. Tout se joue pas là.
En gros, et du coup, il y a Massacre à la tronçonneuse, qui est inspiré du même truc, avec un monstre vraiment monstrueux, Leatherface, il a un masque, une tronçonneuse, il est vraiment très très monstrueux. Donc avec le même fait divers, tu peux faire un film très documentaire et badant, ou alors un truc qui part dans une forme de fantastique, en fait. Tout dépend du traitement.
Les amis, avant de passer au vote final sur cette thématique, je vais vous proposer un petit vrai ou faux. Vrai ou faux, le masque culte de Michael Myers dans la saga Halloween est à l'effigie du frère de l'acteur Nick Castle.
Vrai.
Alors, est-ce que c'est... Mais non, c'est inspiré d'un vrai acteur, mais est-ce que c'est le frère de Nick Castle?
Je pense que Alt va casser tout ce vrai ou faux, clairement.
C'est clair.
C'est faux.
Ah,
effectivement,
merde.
J'ai fait un petit twist.
J'ai plus le nom de l'acteur, il joue dans Star Trek.
C'est un masque à l'effigie de l'acteur William Shatner. Merci. Qui joue dans Star Trek. Wow. Et la petite histoire un peu marrante là-dessous, c'est que l'équipe du film, elle devait en effet acheter le masque le moins cher qu'ils pouvaient trouver dans un magasin de costumes de la ville et tout. Ils se sont dit, ok, on prend celui-là, on met juste de la peinture blanche. Et c'est devenu un des masques les plus terrifiants
plus
du cinéma.
Et on reconnaît bien sa tête, hein, si vous regardez une photo de William Shatner, on le reconnaît. Quoi.
D'ailleurs, tous les liens, encore une fois, tous les liens de refs qui sont cités dans l'épisode seront dans la description. Il est aussi possible, c'est une discussion, qu'on ait dit des trucs où on soit trompé et il y aura un petit disclaimer, une petite correction dans la discussion.
Voilà, n'hésitez pas
également
à fact-checker si vous voulez prendre des informations.
Est-ce qu'on peut black-checker aussi, du coup, pour les blagues? On check les blagues, ouais, de Cyrus aussi.
Oui, on peut le black-checker. Le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse a choisi cette arme basique car c'était une grosse pince.
Non,
c'est faux, mais c'est drôle.
Moi, je sais comment il a eu l'idée.
Plutôt vrai. Alors, moi, j'ai eu plusieurs sources là-dessus.
Alors, moi, j'avais la source dans un making-of. Alors, je sais pas, c'est qu'il était dans un magasin de genre Jardiland. Et il faisait la queue, il y avait plein de monde et c'était stressant et tout. Il y avait l'étal des tronçonneuses et il s'est dit, putain, qu'est-ce qui se passerait si je prenais une tronçonneuse et que je l'allumais là d'un coup. Et il s'est dit, tiens, ça pourrait être cool.
Alors, en faisant une petite recherche, j'ai vu ça et je trouvais ça chambé. Et ensuite, j'ai vu une interview où il raconte aussi que le bruit de la tronçonneuse remplaçait n'importe quelle musique d'horreur pendant les scènes. Et donc, ça lui économisait beaucoup d'argent. Le fait d'avoir un mec qui crée une musique hyper flippante et tout, tronçonneuse, beaucoup plus reconnaissable. Et vas-y, j'économise
des trucs. Vrai.
Donc, c'est un peu vrai.
Bah, okay. Ouais, je pense que la deuxième raison, à mon avis, doit être une conséquence. Il s'en est rendu compte pendant le film.
Possible,
il a dû se dire, ah, en plus, ça me fait ça.
Sachant qu'il pensait faire une comédie réelle aussi.
Ah ouais?
Que du coup, il appelait tous les jours la comité de censure pour savoir ça passe, ça, ou ça passe pas. Et du coup, il pensait faire un truc beaucoup plus...
C'est très loin d'une comédie, fun, quand même, au final. Il a,
non, mais il a foiré son cahier des charges. Ouais, okay. Merci à lui, d'ailleurs.
Mais il l'a foiré à quel moment? À l'écriture ou au montage, ou tu vois?
Je sais pas, ouais. Non,
ça serait trop drôle au montage, c'est de dire, mais ça ressemble pas, c'est pas drôle en fait.
Mais il y a des trucs un peu grotesques dans le film, mais pour autant, les phases horreur sont absolument terrifiantes, quoi, pour le coup.
Aux États-Unis, en 1999, 907 personnes se sont assurées contre la transformation en loup-garou.
Je sais qu'il y a une histoire de.
Redis,
il y a un truc qui est vrai dedans, je crois
99.
Que c'est vrai.
1999?
Oui, je crois que c'est vrai.
Genre, tu vas voir une boîte d'assurance pour dire si je me transforme en loup-garou,
oui,
c'est
la
merde.
J'ai lu un truc sur le lycanthrope, en effet, où les gens... Ouais. Et d'ailleurs, c'est une vraie maladie, les gens qui pensent se transformer en loup-garou. Ça s'appelle la lycanthrophie.
Phobie, ouais, un truc comme ça.
La lycanthrophie, je crois.
La maladie. Ouais, tout à fait. Bah, meilleur, voilà. Meilleur, j'ai pas un meilleur complément d'information.
Bah,
oui, c'est vrai. 900 personnes se sont fait assurer pour dire, si jamais je suis loup-garou, si je casse des trucs... ne sera pas à payer. Je trouve ça assez ouf.
C'est quand même génial.
Je trouve ça magnifique. Ah, Buffy est devenu un sujet d'étude dans une fac anglaise.
C'est vrai.
Oui.
C'est vrai. Buffy Studies, qui font partie du domaine universitaire des Culture Studies, qui est un espèce de courant de recherche d'origine anglophone.
J'ai l'impression qu'on est bon à ce, finalement, à ce vrai-faux.
Piège-nous, vas-y.
Cannibal Holocaust, qui est devenu un spectacle de kermesse d'une école primaire dans l'Oise.
Non.
Ça aurait été dingue. Ce serait bien, putain.
On aurait aimé.
Fun fact, il a dû prouver que des gens n'étaient pas morts pendant le tournage à l'époque de la sortie du film, tellement c'était hardcore. Ouais.
Mais ça a été de toute façon, le film a été censuré sitôt qu'il est sorti, il me semble.
Ouais.
Cannibal Holocaust.
Oui. Ouais. Mais c'est un très vieux film qui est muet dans mon souvenir. Non, il est pas muet.
Non, il est pas muet.
Ça parle de l'Holocauste et du cannibalisme.
Non, ça parle de touristes qui partent se faire bouffer par une tribu cannibale dans la jungle.
Et qui est filmé façon Blair Witch.
Ouais, il y a du found footage. C'est un des premiers films en found footage, c'est-à-dire des bandes qu'on retrouve plus tard et on regarde les cassettes pour voir ce qui s'est passé.
Ah, t'appelles ça comment, Roddy ?
Du found footage.
Found footage.
On a trouvé de la bande, quoi.
Ok.
Il existe un film Zombie Ass, Toilets of the Dead, dans lequel des zombies sortent des toilettes.
J'espère que c'est vrai. Oui.
C'est vrai.
Qu'est-ce qu'ils ont pas fait avec les zombies, honnêtement?
Il existe un film.
Ça me fait bader, juste les toilettes.
Les toilettes. Ouais.
Moi, quand j'étais petit, ça me faisait vachement peur qu'il y ait un alligator ou un crocodile.
T'as entendu cette légende urbaine?
Il y en a,
aussi,
ouais,
avait des alligators dans les égouts.
Ouais. C'était à New York, ça, surtout, ouais. Non. Ouais.
Mais il y a eu surtout la légende urbaine de. C'était un type qui s'était assis et qui s'était fait mordre les couilles par un, par un anaconda, je crois. Et après, les gens ont eu peur pendant hyper longtemps que des anacondas sortent de leur chiotte pour leur bouffer leur partie génitale, quoi.
Bah, j'avais entendu ça avec les alligators. Voilà.
Il existe un film, Les Dents de la Plage.
Alors, non,
je suis pas faux. Sûr, peut-être.
C'est vrai. C'est vrai.
Ah ouais.
C'est vrai. C'est Les Dents de la Mer, sans budget, sans les droits. Vraiment, c'est une espèce de remake hyper cheap, Les Dents de la Plage. Et c'est la même affiche que Les Dents de la Mer, sauf que le requin arrive dans du sable, en fait. Mais c'est exactement pareil.
Énorme.
Je trouvais ça assez incroyable.
Ah, c'est marrant.
Écoutez, il est temps de passer au vote. Donc pour récapituler, on a Cyrus qui a le diable, le mec a fait le choix le plus cheaté du monde, mais
c'est cheaté.
Non, mais
ça fonctionne.
Non, t'aurais pu au moins t'arrêter sur une représentation du diable, c'est ça qui est un peu.
Genre le diable dans Tenacious D par exemple. Voilà. Là.
Ouais, mais j'en ai pas vu qui pour moi montre à quel point le diable est horrible en fait. C'est ça qui est dur, c'est que tu peux même pas le représenter vraiment. C'est un monstre psychique, c'est un monstre conceptuel, tu vois.
Non, mais il y a plein de films avec le diable et sous plein de formes différentes.
Il y en a même où il s'habille en Prada, je ne sais pas si vous avez vu.
Déjà, et il y en a où il est président d'un cabinet d'avocats, il y en a d'autres où il y a un diable administratif, il y a un diable en mode bouc, pervers et tout, il y a tout plein de.
Mais même le diable en tant que celui que tu te représentes basiquement, avec le diable cornu, rouge. Pardon?
Pan, j'allais dire.
Pan, ouais, si, un si, peu, Pan, oui, Pan, oui. C'est une des inspirations pour le diable cornu, ouais. Franchu, ça vient de
oui,
Pan.
Oui, voilà.
Oui, c'était pas une vanne. Hein.
Non, d'accord, j'ai essayé de trouver la vanne derrière.
Pan, Pan, mais...
Pan.
Quoi, pour les mains.
Mais oui, en effet, juste avec balle, cette représentation basique du diable, t'en as plein, et qui sont parfois hyper flippants d'ailleurs. Hein.
Ouais. Et moi-même, je dirais que pour faire un truc, la plus flippante du diable, par exemple pour prendre l'exorciste, c'est le diable qui s'exprime à travers quelqu'un de possédé.
Ah,
tu sais, quand il y a des voix d'outre-tombe là, dégueulasses, qui parlent en latin, et ça, ce diable-là, là, qui est caché derrière ton âme, là, il est ultra flippant, lui, parce qu'il s'exprime à travers...
Parce qu'il est en mais parce qu'il est en toi en fait, il est en tout le monde.
Exactement.
Je sais pas si vous avez vu la série Penny Dreadful.
Oui.
Où il y a des passages justement avec Eva Green qui est possédée, justement, il y a des moments comme ça qui sont très dérangeants. J'aime pas trop non plus.
Il y a un sketch très drôle de Kane Peele là-dessus où genre à un moment il y a l'un des deux ou les deux, je crois qu'ils sont qui sont possédés, à un moment ils se font posséder et voilà, si je vais le défoncer, vas-y, passe-le-moi, et donc ils se disputent et tout. C'est trop marrant.
Alt, t'es donc Freddy Krueger. Est-ce qu'il y a un dernier argument, un dernier truc qu'on n'aurait pas dit que t'as envie de rajouter ou
Non, il est non, il est. J'ai à peu près tout dit. Freddy.
On parlera pas du film Freddy contre Jason. du coup.
Oh, qui est pas le pire. J'ai plus de mal avec le remake, par exemple, tu vois, où ils ont refait un Freddy pas drôle. Ça marche pas du tout.
Non, ouais. Moins cool.
Et sans l'acteur qui faisait
Robert Englund.
Voilà, sans lui, c'est moins bien.
Kalindi, The Thing.
Ouais, un dernier argument. En fait, je vais me répéter, mais vraiment, ce qui rend monstre le plus monstrueux, je pense, c'est le fait qu'une fois que tu l'as vu, tu continues à avoir peur de lui.
Est-ce que quelqu'un change d'avis, se rabat sur un truc, s'est laissé convaincre, ou on est toujours campé sur les positions?
Moi, je vais quand même suivre, je vais me dédire et je vais suivre l'avis de Cyrus, même si je regrette qu'il n'ait pas choisi, tu vois, parce que c'est un peu vaste. Mais en vrai, diable, meilleur méchant, parce que toutes les formes, il existe. Pas, mais on pourrait le voir partout, enfin tu vois, c'est très très intéressant, mais c'est un peu prochaine fois tu nous choisis un diable,
okay, pour
c'est la dernière fois
pour moi.
Okay. J'avoue, c'est badass.
Kalindi, tu restes sur The Thing?
Ah oui clairement.
Moi je reste sur Freddy et du coup c'est le diable qui l'emporte.
Allez,
c'est beau cette conclusion, c'est le diable qui l'emporte,
c'est tout, c'est comme ça que ça se fait,
c'est comme ça que ça se fait.
Ok, et eh ben d'accord. Après,
on peut mettre des masques, on peut faire des incantations si tu veux et tout, mais
ok. Ah, comment...
Non, mais en vrai,
je comprends que je sois déçu.
C'était des super choix. Ils sont tous,
bien sûr.
Ils sont tous cool. Et ce qu'il y a de cool dans
les films, c'est que. J'ai fait ça pour toi, maître. J'ai fait ça pour toi, grand maître Satan. Oui.
Mais d'ailleurs, je sais pas si vous regardez American Horror Story, qui est une série assez inégale. C'est une série d'anthologie, donc quoi qu'il arrive, c'est forcément inégal. Mais la dernière saison, je vous la recommande, elle est vraiment excellente. Et t'as une représentation. Approximatif du diable en la personne d'un type qui s'appelle Michael, d'ailleurs, je crois, et qui est absolument diabolique de par tout ce qu'il est. Je vous le recommande, cette série qui est vraiment très bien, surtout cette dernière saison.
Voilà. Okay. Coven, elle s'appelle, dans c'est laquelle c'est,
Non, Coven, c'était
c'est
la.
C'est Coven, elle était nulle.
En fait, celle-ci, c'est un mix entre la première saison et la saison 3.
D'accord.
C'est vraiment bien foutu. Très bien.
C'est Coven, la 3, c'est les sorcières.
Ouais, tout à fait.
Okay.
C'est Charmed, ça,
oui, aussi.
Le reboot est terrifiant.
Il y a le reboot de Sabrina aussi.
Ouais.
De quoi, le reboot de Sabrina,
regardé, ouais, j'ai regardé le reboot de Charmed de la semaine dernière, mais pas plus tard que la semaine dernière.
C'est
et c'était... Non, c'est très mauvais.
Ah merde. Ok.
C'est très mauvais.
Sur ce clash de Kalindi envers,
envers le reboot la production de Charmed,
l'émission touche à sa fin.
Où est-ce qu'on peut te retrouver, Kalindi?
On peut me retrouver sur le site mademoiselle.com où j'écris chaque jour de nombreux articles. On peut me retrouver sur iTunes, SoundCloud, etc. dans le podcast Laisse-moi kiffer. Bientôt pour mon prochain podcast qui n'a pas encore de nom mais qui devrait arriver dans les semaines qui arrivent. Et puis, c'est tout. Il m'arrive de faire des petites vidéos sur YouTube, notamment sur les films d'horreur. Et puis, voilà.
Il faut taper juste Kalindi.
Tu tapes Kalindi en général, je sors en premier.
Ok, j'en mets. Et toi, Al, où est-ce qu'on peut te trouver?
Eh ben moi, on peut me trouver sur le YouTube le plus près de chez vous. en gros, je suis sur YouTube et aussi dans Canard PC où j'écris une chronique mensuelle sur l'étrange et le jeu vidéo, en gros. Et voilà.
Donc, Alt 236 sur YouTube.
Voilà, j'ai plusieurs formats, donc un peu de tout. Voilà. Mais c'est sur YouTube, principalement.
Ça marche.
Merci d'être venu, chers invités.
Eh bien, merci.
C'est un plaisir. C'est super intéressant, c'est super cool. Tom, nous, où est-ce qu'on se retrouve?
Je sais pas, on pourrait se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Meilleur Podcast.
Ah, pourquoi pas,
chaque semaine.
C'est
bien,
c'est cool.
Bien.
Tous les jeudis. Ouais, cet épisode qui est sorti un mercredi parce que c'est 31 octobre et qu'on voulait faire un épisode spécial Halloween.
Je dis, mais Halloween, c'est la Saint-Quentin. Voilà, tout s'explique. Voilà.
Pourquoi?
Mais du coup, on comprend pas.
Pourquoi
c'est mon prénom? On finit là-dessus. Voilà.
Tout l'épisode, on a essayé de garder ce mystère.
Information secrète.
C'est la languette flambie finale. Ouais. C'est stylé, quoi.
Magnifique. Ouais. Merci beaucoup. On se quitte en chanson, comme d'habitude.
Simply the best town, 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 town.
Le diable.
Si vous écoutez encore, c'est que vous avez peut-être bien aimé ce podcast. Alors merci.
Ouais, merci beaucoup. Et pour nous aider à le faire connaître et à le faire grandir, vous pouvez faire plusieurs trucs.
Alors déjà, vous abonnez au meilleur podcast sur vos applis de podcast. Et oui, j'ai dit beaucoup de fois podcast.
Il y a un autre truc important, c'est le noter 5 étoiles et mettre un petit commentaire sur Apple Podcast.
Ouais, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement et pour le faire découvrir à d'autres personnes.
Et enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucun épisode. Les liens sont en description.
Et au passage, on remercie Nouvelles Écoutes qui a coproduit cet épisode.
À jeudi.
À jeudi prochain.
Simply the best. Tain, 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 tain.